Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme vous ne l'avez jamais joué.
Salut, c'est Jean-Christophe Drouet. Vous écoutez le nouveau podcast golf, le Practice RMC, épisode 1, Drive to Survive. Régalez-vous.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Salut à tous les amoureux de la petite balle blanche. RMC se met au golf avec son nouveau podcast, le Practice RMC, en partenariat avec Blue Green, un podcast que vous retrouverez deux fois par mois. Vous jouez plus 45, plus 32, plus 15, 0 ou moins 20 comme moi. Facile, ce podcast est fait pour vous. Avec nous, vous allez peut-être devenir un bien meilleur golfeur, en tout cas à coup sûr une bien meilleure personne. Au sommaire aujourd'hui dans le Practice RMC, le Shotgun, votre premier numéro consacré au drive. Est-ce indispensable pour devenir un bon joueur amateur? Le tips de Ramucho, c'est notre prof, je vais vous le présenter. Il va faire de vous des Bryson de Chambaud. Le mulligan, comme tout amateur de golf, vous vous arrangez avec les règles à chaque épisode. On va vous apprendre vraiment une règle de ce jeu, histoire de vous la péter sur votre prochain parcours. Le triple bogey, ça n'arrive pas qu'à vous. Simon Dutin nous racontera le craquage d'un joueur pro. Aujourd'hui, retour en 1998, John Daly signe plus 13 sur un seul trou, un record dans l'histoire du golf. Et pour terminer, le clubhouse, notre VIP, devra répondre aux questions les plus indiscrètes sur son jeu. Vous allez pouvoir également gagner des cadeaux dans ce podcast. Pour ce premier épisode, nous vous offrons deux green fees valables sur l'un des 47 golf Blue Green de France. Rendez-vous sur le compte Twitter d'RMC Sport. Il faut juste retweeter. C'est parti.
Le Practice RMC.
Mes invités aujourd'hui, mon caddie qui sera présent à tous les numéros, c'est Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Avec toi les règles, les craquages, je le disais, juste, parce que c'est très important, ton index.
Mon index 27,5 je crois.
Oui, je t'ai déjà vu jouer, tu joues à peu près 15 et franchement c'est plutôt pas mal.
Oh, ça c'est les mauvais jours, JC.
Bien sûr, notre prof de golf, Ramucho Artola. Salut Ramucho.
Bonjour JC.
Très salut, heureux Ramucho. De faire ce podcast avec toi, tu seras avec nous sur chaque épisode. Tu es responsable enseignement du golf Blue Green de Pessac. Ta mission, faire de nos auditeurs des joueurs capables d'aller jouer à Augusta.
Bah écoute, c'est une bonne mission, c'est un bel engagement et un bel objectif.
Voilà, mission difficile mais pas impossible. Notre invité aujourd'hui, il a lancé sa chaîne YouTube avec son frère. Alors ils ne sont pas américains les deux frangins, mais ils ont appelé ça les Two Brothers. C'est Tom Holsinger. Salut Tom.
Bonjour à tous.
Ton index à toi c'est quoi?
Alors c'est à peu près 9.
À
ça dépend des jours.
C'est pas mal. Il le dit comme ça petitement, mais c'est bien. J'ai pas demandé à notre coach, mais bon, tu es un ancien joueur professionnel, ton index?
Alors, quand je suis passé pro, j'étais 0,8 exactement. Je ne suis pas arrivé au mythique 0 à l'époque, donc je suis passé à 0,8.
J'adore.
Je suis pas certain de jouer entre 0 et 2 actuellement. Hein.
Ok, 0,8, franchement ça donne envie. Et puis notre VIP, un ancien champion, un ancien joueur emblématique du Paris Saint-Germain de Bordeaux, c'est Alain Roche. Salut Alain.
Salut JC.
Aujourd'hui consultant chez nos copains de Canal+, et évidemment très bon joueur de golf. Alain.
On se débrouille.
Oui, tu te débrouilles. En tout cas, c'est l'une de tes passions, ton index à toi.
7, 9 je crois.
Ah oui, on est entouré de
quand
bons
même.
Joueurs, la crème de la crème dans ce nouveau podcast sur RMC, ça s'appelle Le Practice, on sera là donc deux fois par mois et on commence ce premier épisode consacré au driving, Drive to Survive.
Le Practice RMC.
Now on the team, representing the United States of America, Bryson DeChambeau. 340 to the front edge of the green, giving it a go.
And that one is on the green.
Le shotgun.
Le bison Bryson DeChambeau lors de la dernière Ryder Cup. Vous vous souvenez peut-être de ce moment lors du départ sur le trou numéro 1. L'homme qui drive en moyenne à 291 mettre l'Américain qui a déjà envoyé des sacoches à près de 400 mètres hein, dans sa carrière. De quoi nous rendre un petit peu jaloux, complexés. Hein, on se dit on ne pratique pas le même sport. Mais tout de même, le drive à notre niveau, est-ce que c'est tout de même indispensable pour devenir un bon joueur de golf? Forcément, je me tourne vers toi, Ramucho. C'est indispensable pour devenir un bon joueur amateur?
Alors, le drive, c'est indispensable puisque c'est avec ce club qu'on met la balle en jeu. Donc, ça détermine évidemment la suite du trou. Alors, si évidemment, on peut être à la fois précis et long, bah, le parcours devient forcément plus sympa. Ça, c'est clair.
On en reparlera, Tom, des Two Brothers avec toi parce que forcément, c'est votre cœur de métier aussi d'envoyer des sacoches, je le disais, un petit peu à l'image de Bryson DeChambeau. Pour toi, pour répondre à cette question, et après, on rentrera en détail, c'est indispensable pour devenir un bon joueur amateur?
Ah oui, ça l'est et j'ai aucun problème à dire ça. Oui, c'est tellement important pour bien commencer sa partie, pour bien commencer comme le dit Ramucho, chaque trou avec un bon drive, tout devient plus simple.
Tout devient plus simple. Tu t'en es rendu compte aussi, Alain?
Oui, c'est capital parce que si tu as ton premier coup, ça joue sur ton mental et que c'est un sport d'esprit, voilà, donc de concentration, d'application. Quand tu ne maîtrises pas tout le domaine du jeu du golf, si tu t'handicapes déjà sur le premier coup, ça devient très inquiétant. Après, moi, j'ai aucune jalousie par rapport à un DeChambeau ou un frappeur. Le principal au golf, c'est de la mettre en jeu. Et après, on essaie de faire le mieux possible pour la mettre dans le trou.
Ok, ça ne te fait pas grand-chose de voir qu'un mec peut driver à 350 mètres, par exemple?
Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Alors après, s'il allie la puissance et derrière la précision, il y en a certains qui ont pu le faire. Mais DeChambeau l'a fait pendant un moment, ne le fait plus maintenant, et gagne moins surtout. Donc,
absolument. Mais elle a un bon comportement, parce que certains joueurs qui partagent une partie avec d'autres qui sont plus longs qu'eux, si moi par exemple je prends 30 mètres dans la vue, ça peut me désorganiser et je veux pouvoir surjouer, arriver à leur niveau et du coup mon jeu peut s'altérer, du coup mon score avec.
Oui, justement, donc, quand on fait des parties à plusieurs, souvent, c'est bête de dire ça, mais on se compare un peu les drives. Et c'est vrai que ça peut entrer dans la tête, mais il faut déjà être droit, j'imagine. Alors, vous me dites que c'est indispensable, ça c'est vrai, et j'imagine que vous, les auditeurs, vous allez sur votre parcours, vous vous dites, voilà, ça me met en jeu tout de suite et ça me donne l'opportunité de frapper mon deuxième coup et d'être en régulation sur le green. Mais on m'a toujours dit que c'était quand même l'outil le plus difficile à maîtriser au golf. C'est vrai, Ramucho?
Ah, c'est pas le plus simple, puisqu'il y a un levier assez important, une grosse tête. Donc, effectivement, le moindre petite faille dans la mécanique du swing, elle prend des trajectoires, la balle qu'elle ne prend pas avec un fer neuf, c'est sûr. Mais il faut l'appréhender comme un club de sa série et surtout pas tout focaliser son jeu, sa technique sur un seul club.
Alors justement, mettons-nous en pratique. Moi, je suis un jeune golfeur, j'ai envie de me mettre au drive. Tu me donnes des cours parce que c'est aussi maintenant ton cœur de métier. Tu as été ancien joueur pro. Est-ce que tu me fais taper le drive tout de suite?
Je vais te faire taper le drive assez vite parce que tu vas être frustré sinon. Parce que tiens, c'est quoi ce club? J'ai pas le droit, j'ai pas encore le niveau ni l'âge pour l'utiliser. Donc, je vais te le faire taper assez vite. Déjà, pour le démystifier et te rendre compte avec ce driver en main que tu dois avoir grosso modo la même attitude par rapport à un coup de fer 7 ou un coup de fer 5 ou un beau sol, voilà.
C'est ok, sûr. Donc tu dois avoir la même attitude. Donc très rapidement, au bout de 2-3 séances, on peut conseiller le drive pour des gens qui débutent le golf?
À condition qu'il y ait un œil extérieur qui guide le joueur, qui le place. Voilà, ce serait bien que les premiers temps, le joueur qui s'attaque à un driver ne soit pas seul au monde. Effectivement, il faudrait qu'il y ait un appui extérieur pour justement...
Est-ce qu'on ne dit pas une bêtise si on dit quand même que par rapport à il y a 20 ans, c'est quand même devenu un peu moins difficile à jouer, que le matériel aidant, les grosses têtes de... Moi, j'ai les souvenirs, les premiers drivers, c'était
bien
quasiment
sûr,
injouable.
Bien sûr, c'était d'où l'expression « la tape dans la plaque ». C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un bois en bois, en persimon, et il y avait 4 vis. Et il fallait vraiment, pour que la balle vole et avance, la taper dans les 4 vis. Donc, il y avait une précision colossale. Et un seuil d'exigence très important. Et la tolérance était très, très faible. Maintenant, de nos jours, les progrès du matériel viennent du fait qu'il y a une surface de frappe plus importante, une grosse tête. Donc, un mauvais coup devient un coup moyen avec beaucoup moins de conséquences qu'il y a quelques années, c'est sûr.
Ce qui est le problème avec ce club, le driver, c'est qu'il te ronge le cerveau. Parce que tu sais que c'est le club qui va envoyer la balle le plus loin possible.
Et
donc, tu as tendance toujours
donc on a
inconsciemment
envie de se déchirer.
Exactement, de forcer et de taper. C'est vrai qu'on n'a pas du tout le même swing avec un sandwich ou avec un fer 7 avec un driver parce qu'on a envie que la balle est le plus loin possible et que le second coup soit le plus court possible.
Ouais, il ronge le cerveau.
Ouais, vraiment.
Et c'est vrai, Tom, c'est aussi ton cas. C'est-à-dire que quand tu as commencé à t'habituer avec le driver, comment tu as apprivoisé la bête?
Alors nous, c'est un peu particulier, hein, il faut dire, parce que donc moi déjà, j'ai fait la grosse erreur de ne pas avoir de driver dans le sac. d'avoir déjà d'être long au fer et d'avoir toujours joué au fer et pour être en jeu et continuer comme ça. Et donc petit à petit, le driver est devenu le truc que je mettais pas dans le sac et dont j'en avais un peu peur. Et si moi je peux donner un conseil, c'est le prendre le plus rapidement possible parce que c'est un club performant et il faut essayer de l'apprivoiser le plus rapidement possible. Et moi après, avec mon frangin, avec cette chaîne YouTube, on a rapidement lancé le Bryson Challenge, qui a été de voir, on s'est posé la question de se dire, ok, Bryson a pris 20 kilos, il met 30 mètres à tout le monde, il a gagné un US Open comme ça, est-ce que deux amateurs qui tapent pas très bien la balle, si on tape plus fort, est-ce que ça va nous aider à mieux jouer ? Donc on est parti sur des énormes séances de vitesse pour essayer d'en mettre des énormes. Et là aussi, faut faire un petit peu attention parce que quand tu vas dans l'autre extrême, ça peut aussi impacter ton jeu sur le parcours. Donc c'est quelque chose où il faut faire un peu attention. Mais donc nous, on a une relation assez particulière avec le driver. Et quand on l'a dans la main, on veut un peu souvent se déchirer quand même. Et c'est pas souvent droit aussi.
Et après, je vais parler sous le contrôle des professionnels. C'est que on a l'impression que l'utilisation du driver chez les professionnels est essentielle. Qu'importe la direction, il faut se rapprocher le plus proche du green. J'ai l'impression que c'est la culture des nouvelles générations. Et de certains aussi, parce qu'ils ont une telle capacité de recovery derrière. Et plus on est pris du trou, on pourra sortir un club, j'en sais rien, un wedge ou un pitch ou ailleurs.
C'est mieux de jouer un wedge en deuxième coup qu'un 6.
Quitte à prendre des risques, quitte à avoir des rangées d'arbres, à un moment ils se disent, c'est pas grave, on n'est pas très loin du green. Peut-être que je me trompe, nous c'est différent. Non. Nous, il faut qu'on soit absolument sur la piste quand même, parce qu'après on n'a pas les qualités techniques pour faire du recovery. Enfin, pas tous.
Après, il faut faire attention. Enfin, l'exemple de ça, quand même, ça reste quand même Bryson DeChambeau en 2020, voilà. Qui joue l'US Open. Et en fait, le parcours était tellement difficile, était tellement long, tellement difficile, les greens étaient tellement durs qu'on n'arrivait pas à faire tenir une balle, même depuis le fermé à 130 mètres, que Bryson, en fait, après avoir discuté avec son coach, il a dit, en fait, même si je suis sur le fairway à 130 mètres, je ne vais pas réussir à garder une balle sur le green. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en envoyer à 330, je vais aller me mettre un peu partout, mais avec un sand wedge depuis le rough, où on met normalement moins de spin, je vais les envoyer tellement haut au ciel que je vais réussir à les tenir sur le green. Et c'est le seul joueur qui a joué sous le par sur les 4 jours et qui gagne avec 6 ou 7 coups d'avance.
Oui,
donc il y a certains parcours qui sont comme ça, quoi, où après ils jouent, c'est sûr, comme tu dis, je crois que c'est Alain qui dit ça, on joue pas les mêmes parcours et on n'a pas les mêmes conditions ni le même niveau technique que ces gars-là, quoi.
Oui, ni le même matériel, mais ça on en reparlera. Ramucho.
Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Bryson, il paraît un peu entre guillemets un peu bourrin, mais il y a derrière toute une stratégie. Et sa stratégie, elle est, je rends mon parcours le plus court possible, et du coup, je suis en mesure, avec ma longueur de drive, de me retrouver à moins de 100 mètres régulièrement, et du coup, je me retrouve plus précis au second coup, etc.
Alors, revenons justement pour faire progresser tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est notre cœur et le métier, la mission de ce podcast. Est-ce qu'on peut avoir, on peut se dire qu'il faut qu'on se rapproche du jeu type Bryson DeChambeau pour faire le plus de distance possible, donc de beaucoup, beaucoup s'entraîner au drive, Ramucho.
Absolument, absolument. Il faut beaucoup s'entraîner. Et alors, ne pas taper des balles comme ça en vidant un saut en un quart d'heure. Alors, si on est venu pour se faire plaisir et pour se défouler, OK. Mais si on est dans l'optique de progresser au niveau du driving, il y a quelques règles à respecter.
Comme, par exemple ?
Comme, par exemple...
tout à l'heure, tu nous donneras une leçon, mais tout d'abord, les règles à respecter. Il faut prendre son temps pour taper une balle ?
Je m'installe... comme il le faut, un écartement, une distance à la balle. Mais surtout, si je veux vraiment optimiser ce driver, il va falloir que ce driver, je le fasse circuler autour de mon corps et dans l'espace. Voilà. Et ne pas raisonner uniquement en frappe de balle. Si je veux obtenir de la frappe, une trajectoire et une longueur de balle, il va falloir que mon corps, mes mains, mes bras, en fait, qui sont le moteur, fassent que ce club circule de droite à gauche avec beaucoup d'amplitude et évidemment de la vitesse. Mais ne pas raisonner uniquement dans la frappe. La frappe est importante, mais elle est exactement lié à une balle qui va circuler dans l'espace. Voilà.
Donc. J'ai quelques chiffres à vous donner sur l'évolution des longueurs des joueurs pro au drive. Non sans avoir dit, et là je parle à nouveau sous le contrôle de Ramucho, toi qui as l'habitude de donner des conseils, moi je trouve qu'il donne un exemple catastrophique de Chambeau, qui est, je vais vous donner les chiffres, le joueur qui a les moyennes de drive les plus élevées à l'heure actuelle. Parce que quand on voit de Chambeau, on a vraiment l'impression que pour aller loin, il faut taper le plus fort possible. il a vraiment un swing de bourrin.
Et
il a vraiment un très vilain swing, je trouve. Enfin, on a vraiment l'impression que la seule chose qu'il fait, c'est taper le plus fort possible dans la balle. Il est sur le PGA Tour le joueur le plus long, 323 yards de moyenne, c'est 295 mètres donc de moyenne au drive. Ça, c'était l'année 2021. La première année où ça a été mesuré sur le PGA Tour, c'était en 1980. C'est Dan Paul qui était leader de ce classement. 274 yards, 250 mètres. C'est-à-dire que voilà, DeChambeau fait 45 mètres en moyenne que le plus gros frappeur. L'année dernière, la moyenne des joueurs du PGA Tour, c'était 270 mètres au drive tout de même.
Bah, pour un golfeur amateur, il faut driver à peu près... pour être plutôt tranquille sur un parcours, c'est quoi ? Il faut faire 200 mètres minimum, 200-220 mètres, c'est quoi ton ?
Alain, qui est un bon amateur, il doit la porter à...
Tu fais combien,
220-230 mètres.
C'est très, très irrégulier.
Oui, très irrégulier, mais si tu la tapes bien.
220-230.
Ouais. Ouais, et c'est ce qu'il faut faire à peu près pour faire un bon parcours.
C'est déjà très bien.
C'est déjà très bien.
Ah, oui, oui.
Non, mais parfois,
c'est
on est complexé parce qu'on voit à la télé.
Non. Un mec comme DeChambeau, il optimise tout son potentiel physique, donc il mise là-dessus. Voilà, il ne faut pas se comparer, c'est exceptionnel, DeChambeau. Il a des longueurs de drive stratosphériques. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a quand même une stratégie derrière. Hein. Il n'est pas là juste pour faire de la longueur.
Donc si on fait à partir de 200 mètres avec un drive,
c'est très bien.
Très bien.
On n'est pas ridicule.
Très bien, non.
Sur un
parce que, attention,
ouais, moi, ça me rassure,
il y a la portée de balle et la roule. Hein. Donc si on contacte bien, il y a une portée de balle importante, mais si on a bien contacté la balle, la balle a une capacité de roule importante, donc un gain de distance pas négligeable.
C'est, l'air de rien, les parcours, les par 4, quand tu pars des jeunes, c'est quoi, 320
Et 300, 350, oui, voilà. Moyenne.
Ouais, 330. Voilà.
Moi, ça fait 200 mètres, il te reste un club, un fer 7 derrière, ce qui est un club adapté en tout cas, et que la plupart des amateurs, il va bien toucher, donc ça suffit.
Bon,
ça
va être
tapé à 250.
Hein. Ça nous donne envie.
C'est pour faire une gratte au sandwich derrière.
Voilà.
T'as bien raison. Les Two Brothers, c'est Tom et Luc. Vous, avec le Bryson Challenge, vous faites combien à peu près au drive?
Ça dépend, quand on se déchire ou quand on essaie de la mettre sur la piste.
Déjà, parlons positivement et puis après, on verra.
Non, alors, ce qui est cool, c'est qu'on a mesuré les progrès sur un an. C'est qu'on a vu les progrès. C'est qu'au début, nous, on parle aussi beaucoup en vitesse de club. Et on parle de 100, 105, 110 miles. Mais là, on va parler en distance. Au début, nous, on galérait à faire 210, 220. Et là, aujourd'hui, notre vitesse de croisière nous permet de faire du 235-240, mais par contre, sur des grosses séances de vitesse, on arrive à porter la balle jusqu'à 300 mètres.
Ok, ouais. En descente, c'est ça?
Mais faudrait, mais après, faut. Ah, non, même pas,
après, c'est beau.
C'est plus du tout le swing qu'on voit sur le parcours. On lève le talon gauche, le club nous touche le bas du dos, et puis après, une fois arrivé là-haut, tu te demandes si tu vas toucher la balle, mais tu essaies juste d'aller le plus rapidement possible.
Vraiment, à la DeChambeau, ouais,
mais
c'est ça.
Ouais, mais c'est ça. Mais c'est, en fait, c'est cet entraînement-là qui permet aussi, après, de se dire, je vais faire 10 ou 20% de moins, ouais, et je vais être beaucoup plus à l'aise sur une nouvelle distance. Et le driving, c'est cool, mais ça nous permet aussi d'avoir un autre club dans le sac. C'est un fer neuf qu'on peut accélérer plus vite pour avoir de la hauteur de balle au-dessus d'un arbre. Ça peut être, c'est du driving, mais si c'est un fairway 3, je vais prendre un fer 3. Mais comme je me suis entraîné à aller très vite, mon fer 3, je ne vais pas faire 170 mètres, mais je vais faire 210 ou 215. Le gain de vitesse nous permet de gagner plein de coups autrement aussi. Il n'y a pas que taper fort au driver. C'est ça qui est aussi important à bien prendre en compte.
Mais j'ai l'impression que le driver, c'est devenu un peu l'argument pour faire venir jouer la jeune génération. On le voit d'ailleurs avec vous, hein, les deux frangins. Maintenant, on va au practice comme avant, on allait au bowling pour essayer de taper le driver. C'est aussi ta sensation?
Oui, les nouvelles générations sont fans de sensations, de création de trajectoires, de longueur, et effectivement, les écrans sont là pour appuyer cette envie. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, c'est vrai que de nos jours, on voit beaucoup de joueurs au practice qui s'occupent, voilà, de créer de la trajectoire, de la longueur, et évidemment, ils mettent tout leur cœur à l'impact, c'est sûr.
C'est quoi le plus gros écueil que tu vois, que les joueurs que tu as entre tes mains à Pessac, quand tu les vois driver en main, c'est quoi le plus gros problème?
Déjà au départ, avec la volonté de vouloir cogner systématiquement cette balle, on crée beaucoup de tension. Et malheureusement, à l'arrivée, on va créer un pétard mouillé d'une balle qui aura du mal à sortir. Allez. Ou alors, le joueur se focalise uniquement sur la balle et cherche à la cogner et ne va créer que du blocage. Allez. Et donc, on va être loin, du coup, de cette production de longueur.
Ouais, tu nous donneras une petite leçon, hein, quand même, dans quelques instants. Alain, toi, quand tu as le driver en main, tu penses à quoi ?
À la mettre sur la piste. Voilà. Que ça. Je cherche pas à savoir si j'ai la longueur ou pas. Non. Je vais pouvoir me faciliter mon deuxième coup, surtout. Voilà.
Je rappelle que vous pouvez aller voir les Two Brothers sur la chaîne YouTube. Quand on vient vous voir, vous les Two Brothers, on sait que c'est, je le disais, c'est votre cœur de métier, en tout cas, de taper le drive. On vous demande quoi ? C'est quoi la question qu'on vous pose le plus souvent ?
Si on tape fort. Après, on sait un peu aussi, c'est le jeu, hein, on s'est un peu enfermé là-dessus. Et c'est comme tu le dis, c'est notre fonds de commerce. Et on est parti du constat que sur YouTube, il y avait déjà des joueurs de golf, et notamment des très bons joueurs de golf. Donc nous, on s'est dit, on ne sera certainement pas les meilleurs joueurs. Par contre, on veut essayer d'être ceux qui tapent le plus fort. Parce que, après, c'est aussi une question de plaisir. Je ne sais pas, tous ceux qui sont autour de la table, je ne suis pas sûr qu'on gagne notre vie en gagnant des tournois au golf. Et ça reste encore le plaisir. Et le plaisir de taper des gros drives, de s'amuser. Nous, c'est parti de là, un peu cette chaîne YouTube. Et aussi de se dire, eh ben, nous, on veut que quand les gens regardent notre vlog, ils rigolent. Qu'on essaye de taper loin, qu'on rigole. Et puis, après, ça doit aussi permettre de mieux scorer. Mais la notion de plaisir à la base est quand même primordiale. Et que nous, ça nous amuse de taper fort. Et on prend, ça je ne vous le cache pas, hein, qu'on nous dit, il faudrait plutôt travailler le putting ou le petit jeu. Mais après, sur le principe, on est quand même au golf pour s'amuser. Et le driver reste un club où on peut beaucoup s'amuser. Quoi.
Ouais, et puis ça a servi, je le disais, à démocratiser ce sport.
Ce qui rend fou, je ne sais pas si vous partagez mon avis, messieurs, c'est qu'avec le drive qui est censé être le coup le plus difficile à jouer, on en parlait rapidement avec Ramoutou avant l'émission, c'est qu'il y a des jours, on arrive au tee, on est persuadé, on sait que la balle va partir, va sortir du club, va aller là où on veut, et on se pose quasiment aucune question. Et il y a des jours, on va rater deux drives, et on va se mettre à réfléchir, qu'est-ce qu'il m'a conseillé Ramoutou, on va se mettre à essayer d'appliquer tous les conseils qu'on a, et on n'en fout plus une sur la piste. C'est ça qui est quand même assez ahurissant avec ce coup si particulier.
Et c'est donc le piège, évidemment, que tous les golfeurs connaissent, et dès que le doute s'installe, eh bien, on se réfugie dans la technique. Donc on se pose mille questions, on n'est plus serein et on n'est plus joueur de golf. Du coup, je me réfugie dans la technique et du coup, le coup suivant, ma lucidité, l'observation du parcours devient secondaire. Et c'est là où je vais ramener effectivement un score plus élevé que prévu, évidemment.
Tu vas nous faire une petite leçon, c'est dans quelques instants. Vous écoutez le Practice RMC, c'est votre nouveau podcast golf. Et comme tout joueur amateur, on s'arrange parfois un petit peu avec les règles.
Le Practice RMC.
Monsieur, vous allez avoir des ennuis. Vous connaissez pas les règles du golf.
Le mulligan.
C'est celui qui arrive en premier dans le trou qui a gagné.
C'est bien résumé, merci. Le mulligan de Simon Dutin, bon, on appelait ça le mulligan car c'est la règle totalement interdite en compétition que tous les amateurs de golf se sont déjà autorisés une fois dans leur vie, à savoir recommencer un coup gratuitement, sans pénalité bien sûr, sinon c'est pas drôle. Simon, aujourd'hui tu vas nous apprendre une règle autour du drive, hein, c'est forcément le thème du jour.
Du drive ou du départ, parce que si je vous disais que vous avez le droit de jouer votre deuxième coup sur un tee, qu'est-ce que vous me répondriez ?
Bah, comme ça, je dirais non.
A priori, non. Hein. C'est le rêve de pas mal de golfeurs débutants, et pas que, hein. J'en connais certains à qui ça ferait pas de mal. Eh bien, figurez-vous que c'est possible, si. Alors, on ne s'emballe pas, c'est pas tout à fait une vraie bonne nouvelle.
Ouais, c'est pas aussi beau que ça.
Non, voilà, ce serait trop beau, sinon. Parce que si je vous assure que c'est bien possible, ça l'est uniquement lorsqu'après avoir tapé votre mise en jeu, votre balle n'a pas quitté l'aire de départ. En gros, on parle d'un air shot, ou je ne sais pas ce qui est pire, d'un départ, pour le moins un peu gênant. Alors, sachez, amis golfeurs, que pour vous éviter le désagrément de tenter de toucher le green d'un par 4 de 400 mètres en régulation sur un lie souvent tendu comme un green, vous avez donc le droit de replacer la balle sur le tee pour jouer, on ne s'emballe pas, votre deuxième coup, évidemment, parce que oui, pour les petits malins qui seraient tentés de poser la question, votre premier coup qui a fait marrer les copains, il compte bien. Donc en résumé, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, c'est plutôt un simple moyen d'éviter le ridicule.
Ok, donc on peut quand même utiliser pour un deuxième coup un tee.
Voilà, si votre balle n'a pas quitté l'aire de départ, vous avez le droit de la replacer sur le tee pour taper votre deuxième coup.
Bon, ça t'est pas forcément beaucoup arrivé, Ramucho, mais tu connaissais cette règle ?
Oui, je la connaissais, je l'ai jamais appliquée, mais je la connaissais. Par contre, j'ai appliqué le fameux mulligan, ça c'est
oui,
clair.
Oui, on le fait tous.
Voilà.
Tu le fais encore aujourd'hui ?
Je le fais encore aujourd'hui, non, mais si par exemple j'arrive un tout petit peu en retard sur mon départ ou un petit peu pressé, sans préparation, la règle quand même exige que l'on annonce au départ mulligan. C'est-à-dire qu'on s'octroie le fait d'avoir un deuxième drive.
Si on n'est pas très chaud.
Voilà, si on n'est pas très chaud. C'est pas une règle, hein, c'est un accord à l'intérieur de la partie.
Ok.
C'est un accord de gentleman entre les joueurs le dimanche.
Donc on peut le faire sans avoir trop honte, si j'ai bien compris. Tu le fais toi aussi, Alain, le mulligan ?
Rarement.
Un puriste. Pour...
Non, mais... De temps en temps, parce que j'avoue qu'on arrive toujours au dernier moment sur ce petit numéro 1, sans trop d'échauffement, donc on s'octroie quelques-uns. Mais on ne fait pas de mulligan volant.
Ok,
c'est ça. C'est premier drive, entre numéro 1, ça va, mais
ça ne concerne que le
si tu l'utilises sur au trou 14, non.
Moi, je le fais 8, 9, 10, 11, c'est souvent un peu plus facile comme ça. Alors, à chaque épisode, la leçon du prof dans le Practice RMC.
Le Practice RMC.
Je vous conseille, si ça te visait un peu à gauche du drapeau, si c'est des bacs à sable devant. Ou bien, ouais, c'est ça que j'ai. Voilà, elle part bien. Bien joué. Super.
Le tips de Ramucho.
Le tips de Ramucho, quel est le conseil que tu peux donner à tous ceux qui nous écoutent ? On parle du drive. Tu as plusieurs petits conseils à appliquer tout de suite, là, comme ça. On a envie d'écouter le podcast. Ouais. On va sur une aire de jeu, on va sur un practice. Le premier conseil que tu peux donner, comme ça, Ramucho.
Alors, encore une fois, partant de l'observation que les joueurs, dès qu'ils ont un drive, ont tendance à devenir fous, à vouloir produire de la distance. Leur swing devient du coup très rapide, heurté, et les trajectoires et les contacts, forcément, aléatoires. Voyez. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement de produire de l'amplitude. Donc l'amplitude, en deux mots, c'est produire de la largeur et de la hauteur.
Ok.
Donc, premier tip, on peut placer au départ, on se met à l'adresse, on place une petite puce à droite du pied droit, et je m'oblige à suivre cette puce qui me fait faire un départ calme et ample. D'accord, voilà le premier. Donc, on démarre en suivant cette puce qui décrit la largeur et un arc de cercle.
Ok, on ne part pas tout de suite derrière. C'est-à-dire qu'on part vraiment sur le côté droit.
Voilà. Si on laisse le club décoller progressivement avec ce petit repère.
Ok.
Ensuite, un deuxième petit exercice, un autre repère qu'on peut mettre alors, du coup, à l'opposé, à gauche de mon pied gauche. Voyez, pour justement créer là aussi la largeur. Je peux mettre un tee. Un tee qui fait que ce tee là que j'ai sous mon œil gauche là-bas, ben je vais chercher avec un tête driver à arriver jusqu'au tee. Donc du coup, on va à la fois produire de la percussion et la trajectoire.
Ok, parce que le problème, en tout cas si je comprends bien, ce tee à gauche, le problème c'est que tu vois trop de joueurs qui, ok, il y a le backswing, mais au moment de frapper la balle, on s'arrête un peu et ce qui se passe derrière.
Exactement, c'est comme s'il y avait trois temps, c'est-à-dire que je me prépare, je contacte et puis entre guillemets, hein, si je suis bien luné, je termine. Parce que je me focalise trop sur le contact. Le contact est une conséquence de règles techniques, tout ça, mais surtout d'un club que je fais circuler vers mon fairway. Et comme je suis bien installé, ben cette balle, sans aucun souci, se trouvera sur la course du club. Okay. Et je vais obtenir à la fois une propulsion de balle et une trajectoire. Donc, un vol, une longueur de balle, etc., etc.
Ok, donc le côté droit, le petit marqueur, pour, en tout cas sur le pied droit, pour bien monter et prendre de l'amplitude.
Exactement.
Ok, et le petit marqueur à gauche,
à
ça
gauche,
c'est pour terminer son geste.
Voilà, pour avoir une magnifique traversée que l'on voit toujours, ces photos mythiques de joueurs, vous voyez, qui sont en extension, mais on peut l'obtenir si on a l'intention, et en plus de ça, si on a un petit repère, ben, du coup, on peut avoir cette extension qui ressemble à une extension de joueur de première série ou de pro.
Ok, alors moi j'ai un problème, Ramucho, c'est qu'en fait je coupe souvent du jambon, c'est-à-dire que j'ai un slice affreux, ça part un peu à gauche et puis alors là c'est à cap à droite total. Comment on fait pour résoudre ça ? Est-ce que tu as un petit conseil à me donner ?
Il y a un tips radical. Alors là, c'est vraiment un exercice. Hein. On ne va pas jouer comme ça sur le parcours, mais c'est à utiliser au practice. En fait, on va dissocier les mains sur le club, sur le driver. On va mettre une main en haut du grip, une autre en bas du grip. Voilà, elles sont un peu dissociées.
Ok, façon baseball.
Façon baseball, absolument. On va prendre la même amplitude, le même élan que sur un coup classique, avec un vrai grip. Et surtout, cette dissociation des mains va permettre ce qu'on appelle le release. Ça permettra la rotation et l'extension des avant-bras. Et du coup, mon club va se refermer, va aller vers l'objectif, et du coup, mon slide ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Voilà.
C'est vrai, c'est genre en une séance d'entraînement, ça peut devenir juste un mauvais souvenir.
J'aurais la faiblesse de m'y engager, oui.
Tu feras des beaux, testé. Tu feras des beaux petits fades qui reviendront plein milieu fairway.
Bah, je sais que tu m'as vu jouer, hein, donc tu sais de quoi je parle. Hein, le coupeur de jambon, la balle tout à droite, j'y ai souvent droit. Tu as une petite question à poser à Alain Roche pour te perfectionner sur le drive ou pas?
Non, c'est très intéressant. Pardon, je me mets face au micro. C'est très intéressant sur l'amplitude. Voilà, parce que c'est vrai qu'on est très focalisé sur le contact. On en oublie un peu cette amplitude. Moi, j'ai beaucoup de difficultés sur la montée. Ça me prend la tête. Je ne sais jamais si je monte trop intérieur ou trop haut. Enfin bon, c'est assez complexe. Et ça peut me perturber très rapidement. Ouais.
Oui, parce que souvent, on se pose toujours des questions. Alors,
Des fois, je monte que les bras, je tourne assez. Mais si je tourne assez, je monte intérieur. Donc, je vais revenir. Je vais peut-être faire, comme tu dis, couper du jambon, mais aussi en faire un hook. C'est vraiment pas simple. Et moi, je conseille d'aller au practice et surtout de prendre des cours. Voilà. Moi, je m'octroie de prendre quelques cours quand j'ai un peu le temps en hiver. Ouais.
Je profite de notre prof qui sera là durant tous les épisodes. Ramucho, si je dois faire une session d'une heure d'entraînement, je m'entraîne combien de temps au driver?
On va peut-être pas passer l'heure au driver, mais...
combien de temps je fais quoi? Je peux faire 20 minutes, ça suffit?
On peut faire 20 minutes, oui. Non, mais on peut faire même une demi-heure de driver. Le piège, c'est de ne pas avaler ses balles, de ne pas taper 15 balles à la minute. Voilà, on peut faire une meilleure driver sans problème.
Il faut souffler, il faut reprendre sa routine.
Exactement, et avoir grosso modo la même attitude que j'ai sur le parcours.
Tom,
il y a même un conseil qui fonctionne bien pour ceux qui travaillent là-dessus, c'est même tu tapes un driver et tu tapes un fer derrière et tu alternes entre les deux. Parce que normalement sur le parcours, alors je dis bien normalement parce que ça n'arrive pas toujours, mais on ne tape pas deux drives, à part si la première est très très mais voilà, mais en fait au practice il faut quand même se rapprocher au plus proche de ce qui se passe sur le parcours, donc un drive et après n'hésitez pas à mettre un petit coup de wedge ou un coup de fer 5 et on reprend le drive. Et encore même une petite précision, quand vous tapez un drive, jamais sans viser quelque chose. Même au practice. Moi, au practice, depuis que je prends ça un petit peu plus sérieusement, j'essaye de m'imaginer entre les deux poteaux là-bas ou les deux arbres, un fairway de 30 mètres. Et j'essaye de les mettre sur le fairway, même au practice. Parce que sinon, on en tape et puis on se retrouve sur le parcours. Il y a de l'eau à droite, un hors limite à gauche. Et on commence à avoir les genoux qui tremblent.
Ah oui, tout à fait, Tom. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et juste une petite précision, lorsque l'on vise quelque chose, si c'est un driver que l'on a en main, évidemment... Surtout, visez une zone. Ne vous contentez pas de viser un poteau ou un plot, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Donc, quand vous visez quelque chose, et évidemment, ce travail est indispensable, visez une zone de réception qui correspond à la largeur d'un fairway du parcours.
C'est applicable directement sur le practice, donc évidemment, vous pouvez aller vous entraîner. Craquer, se déchirer, exploser en plein vol, ça n'arrive pas qu'à vous.
RMC.
J'en ai marre ! J'en ai marre !
Triple bogey.
À chaque épisode, on vous racontera la craquante d'un pro, histoire de se sentir bien, de nous sentir moins honteux. Le triple bogey du jour nous ramène en 1998, Simon.
Oui, j'y sais, comme tu le disais, chaque semaine, on reviendra sur un moment où, sur le circuit pro américain ou européen, on s'est senti un peu plus proche de ces champions qui ont par ailleurs l'habitude de banaliser des coups dont nous, golfeurs amateurs, on se souvient toute notre vie, si tant est qu'on en ait déjà réussi. Mais ce qui arrive aussi, donc, c'est le craquage, le carnage, le trou noir, le trou d'air, le jour où... Le moment où les fils se touchent, un champion qui disjoncte, excès de confiance, mental qui flanche, conditions météo qui changent. Finalement, on ne sait pas très bien et on s'en fout parce que si ça donne envie aux joueurs pros de rentrer au clubhouse, nous, devant notre télé, c'est vrai qu'on a tendance à jubiler. Oui, ça peut aussi leur arriver. Alors pour ce premier numéro du craquage, on vous a mis les petits plats dans les grands. On vous a choisi une icône, une légende, un concentré de tout ce qu'on aime et qu'on déteste dans le golf, surtout lorsqu'il porte les couleurs de l'oncle Sam, un joueur aussi mythique que pathétique, à la carrière sinusoïdale, un modèle d'excentricité, un ennemi de la sobriété au propre comme au figuré, bref, une fucking legend.
You can't drink like me, you can't smoke like me, and I guarantee your dick's not as big as mine.
Vous l'avez peut-être reconnu, vous aviez sûrement deviné, on parle bien entendu de John Daly, The Big Hitter, The Lion ou encore Long John en raison de sa longueur au drive et rien d'autre contrairement à ce que vous venez d'entendre. Alors John Daly, pour ceux qui suivaient déjà le golf dans les années 90, c'est une sorte d'ovni, il a remporté deux majeurs, l'USPGA 91, le British 95. Je vous emmène donc, tu le disais JC, au printemps 98, époque où ce bon John est déjà un peu sur la fin de sa météorique carrière. Il commence à traîner plus au casino qu'au practice et consomme plus de bibines qu'il ne fait de birdie. Il dispute cette année-là le Arnold Palmer Invitational sur le parcours de Bay Hill à Orlando. À l'époque, le tournoi s'appelle encore le Bay Hill Invitational. On est au quatrième tour. Départ du trou numéro 6, un dogleg gauche. Enfin, si on peut parler de dogleg, c'est plutôt un lac dont on doit faire le tour par la droite. Trou numéro 6 donc, Long John sort le driver et s'aligne face au drapeau. Oui, oui, face au drapeau, carry approximatif, 320 mètres. On précise que ce trou numéro 6 est mesuré à 507 mètres et que même les têtes brûlées du circuit drivent le fairway et contournent le lac, évidemment. En même temps, à cette époque, Johnny vient tout de même de devenir le premier golfeur pro de l'histoire à toucher une moyenne au drive supérieure à 300 yards, 274 mètres, sur une saison complète. Bref, John sort donc la babatte et met une mine en fermant les yeux, mais...
Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air.
Dans l'eau. Pris d'une sagesse à laquelle il n'avait habitué personne jusque-là, Daly, après s'être droppé 27 mètres plus loin, range le driver et sort le bois 3 et se dit qu'il va couper, mais bon, juste un peu plus court, quoi. Re dans l'eau. Alors ce bon John va encore nous mettre 4 balles dans le lac avant d'atteindre enfin la berge en face. Bon, la balle est injouable, mais à ce niveau-là, on n'en a plus rien à faire. Après son cinquième coup, j'ai perdu le compte, déclarera après la partie Paul Goidos, son partenaire du jour. Ouais. Nouveau drop, faire 6, direction le green. La balle heurte un rocher, elle finit dans un bunker. Sortie de bunker, 2 putts, enfin, la balle est dans le trou. Rideau, ça fait 18, oui oui, 18 sur un par 5, vous avez fait le compte, ça fait plus 13 sur le trou, alors je ne savais même pas qu'il y avait un nom pour ça, lorsqu'on fait plus de 15 sur un trou, on appelle ça un archéoptérix, c'est évidemment rarissime, c'est l'un des pires carnages de l'histoire sur le circuit PGA, on précise qu'après un joli 68 au premier tour, Daly avait signé 75 et 70, qui l'empêchait évidemment de viser le titre en ce dimanche. Pour info, il terminera son dernier tour avec un 85 qui ferait le bonheur de beaucoup d'entre nous et qui a en tout cas ajouté une belle ligne à la légende de Big John.
So don't try and be like me, motherfucker.
Merci beaucoup Simon Dutin pour ce craquage chez le triple bogey à retrouver dans chaque épisode. Ramucho, ça te dit quelque chose? Ça te parle? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de craquante ou pas? Pas à ce point-là quand même.
Ça m'est arrivé mais avec le putter. Donc c'était une journée sans où je prenais trois putts, des virgules. Donc la moutarde commençait à monter au nez. Puis j'ai un putt qui fait carrément le tour du trou. Il était quand même pas bien putté, c'était un peu nerveux. Et là, je me suis un petit peu énervé. Du coup, j'ai balancé mon club comme un hélicoptère en l'air. Et alors là, j'ai honteux. Mon club est resté coincé dans l'arbre. Alors là, je ne savais plus où me mettre. Il me restait encore 3-3 à jouer sans le putter. Mais surtout, le club est coincé. Et j'ai dit, mais c'est bien fait pour toi. Tu n'as qu'à garder le calme. Mais c'était vraiment, je n'ai jamais été aussi penaud de toute ma carrière. Et donc, je n'ai même pas été le chercher. Et j'ai fini avec mon fer 4, les 3. Et j'ai mieux putté, effectivement, qu'avec mon putter. Ah. J'aurais dû réagir avant.
Eh bien, l'épisode numéro 3 sera consacré au putting. Et forcément, il y a eu des craquages célèbres. Et tu viendras nous en parler, Simon Dutin. Pour terminer ce premier épisode du Practice RMC, on file au Clubhouse avec notre VIP Alain Roche. Question courte, réponse courte. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, Alain?
Je le jure.
C'est parti. Le meilleur score de ta vie?
2.
Ta distance au drive?
Terrain sec en pente, je crois que j'ai fait 280-300 mètres.
Ton club préféré?
Le putter. Ben oui.
C'est rare ça?
Ben non, j'adore le petit jeu. Voilà.
Ok, ah oui, mais enfin, il y a petit jeu, là c'est le très petit jeu.
Le putter et le petit jeu aussi, ouais, mais j'avoue que j'ai des préférences.
Rassure-moi, tu joues pas au mini-golf?
Non, jamais.
Ok. Ton club détesté?
Faire 3, faire 4.
Pourquoi?
J'arrive pas à enlever une, donc j'ai trouvé une solution, j'ai pris un petit rescue, ça me va très bien. Et surtout avec l'âge, à un moment, tu sais quoi, tu veux taper moins fort et le plus droit possible.
Ton parcours préféré?
Je vais faire mon malin, mais j'ai eu la chance de jouer Montfontaine, donc qui est un parcours admirable, mais un parcours très beau aussi, c'est Fontainebleau. Voilà, j'apprécie beaucoup ce parcours.
Ta tenue du dimanche?
Ça veut dire quoi?
La tenue que tu préfères pour aller jouer.
Pour jouer au golf?
Ouais.
Ben, s'il fait beau, Bermuda.
Et un petit polo?
Ah, toujours un petit polo. Ah non, faut respecter l'éthique sur le golf. Ah, non, j'y vais jamais en t-shirt. Okay. Interdit.
Le mec connu que tu bats jamais?
Antoine Comboiré.
Le mec connu que tu bats toujours?
Sébastien Bazin.
Ok.
Mon ancien président au Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Il n'est pas souvent là parce qu'il a un planning de fou, mais à chaque fois, on joue en double. Chaque fois. Moi, je joue avec Antoine et lui, joue avec un monsieur qui s'appelle.
Ah oui, c'est bien en plus de jouer avec Antoine Camboré. Je crois qu'il est très bon. Il joue quoi?
Ouais, Antoine, il doit jouer 5.
Oui, c'est pas mal.
Enfin, quand il a le temps.
Le mec le plus insupportable sur un parcours?
Le mec lent. Je déteste.
C'est quoi lent pour toi?
Mais c'est un gars qui va taper plusieurs fois un coup, qui va lire des pentes de potes alors que c'est simplement un amateur, qui le lit comme un professionnel, et c'est une personne qui n'a aucune éthique du golf, et parce que quand on ne sait pas bien jouer, ben on regarde un peu ce qui se passe derrière. Donc c'est insupportable. Et je ne joue jamais avec des gens qui jouent lentement. Voilà.
Ok, ça c'est pour moi. Promis, je jouerai vite. Le joueur pro que tu essayes de copier?
Raphaël Jacquelin. Pourquoi? Parce que, alors, on peut parler des joueurs professionnels américains, mais c'est le rythme. Voilà. On parlait de rythme, de mouvement, d'amplitude, et c'est vraiment un exemple pour tout le monde.
Le parcours que tu rêves de faire?
Augusta.
Le plus beau coup de ta vie? Il y en a un?
Oui, bah, on se rappelle toujours de son premier eagle. Voilà, j'avais réussi, j'avais eu beaucoup de chance, j'étais en vacances en Corse, et sur le golf de Speronne, voilà, un petit coup de pitch dans le trou.
Le plus gros craquage de ta vie?
Jamais. Non, je m'énerve pas sur un parcours de golf. Moi, je suis là pour m'amuser. Je ne vais jamais jouer seul. Je suis toujours avec des copains. Des copains qui sont sympathiques, qui ne se prennent pas la tête, même s'il y a de la compète. Donc, je n'ai jamais craqué sur un parcours. Jamais. Je n'ai jamais jeté mon club, en tout cas dans l'eau ni dans un arbre.
Merci beaucoup, Alain.
De rien, c'était un grand plaisir, en tout cas.
Stephen Brun, l'ancien basketteur pro, sera notre prochain invité. Le deuxième épisode sortira le vendredi 22 avril au menu. Le matériel, comment bien choisir son matos, c'est ça forcément, c'est très important. Merci messieurs d'avoir participé à la première du Practice RMC. Longue vie à ce podcast évidemment avec tous les copains de Blue Green. Tom, on rappelle la chaîne YouTube, les Two Brothers, vous nous régalez à chaque vidéo.
Bah, merci beaucoup.
Bah, merci à toi Tom, tu embrasses Luc, le frangin, et on se retrouve à très vite sur un parcours.
Avec grand plaisir.
À bientôt sur un parcours également.
Avec plaisir.
Alors pour tous ceux qui veulent absolument te voir en attendant, c'est sur Canal+.
Exactement.
Chez nos copains également. Simon Ramucho, rendez-vous au deuxième épisode.
Avec plaisir.
Salut messieurs.
Bon golf à vous, les auditeurs. Et comme dirait Dave Berry, le meilleur moyen de gagner 5 coups sur un parcours, c'est de se servir d'une gomme.
Le Practice RMC.
Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme vous ne l'avez jamais joué.